Chers amis, je sais qu'il y a une chose qui, comme moi, vous aimez beaucoup, c'est d'aller chez le dentiste. Et alors, il y a une chose qu'on aime bien chez le dentiste quand on a une carie, c'est la fraise qui commence à rentrer dans la dent. Maintenant, c'est plus moderne d'ailleurs parce qu'il y a, c'est un laser. Maintenant, j'ai vu ça. Mais toujours est-il qu'on maudit le dentiste, la fraise, on maudit à peu près tout. Et pourtant, il faut bien passer par là. Il faut aller chercher jusqu'à la racine du mal. Il faut extirper cette racine, il faut extirper ce qui peut être cause d'infection, parce que sinon on pourrait retourner plus tard, on le sait bien. Mais je vous promets une chose, en ce moment on est en train d'extirper, on est dans la phase de fraise dans la dent. C'est pour ça qu'un certain nombre m'ont dit « Oh là, c'est difficile, ben c'est difficile, ça rame quoi ». Ben oui, et j'ai une bonne nouvelle. C'est que ça va continuer pendant 8 jours. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi quand même. C'est que, vous savez, quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'anesthésiant très efficace. Maintenant, chez le dentiste, il y en a. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit la dernière fois, j'ai terminé dans les croix, il y a la Sainte Vierge, c'est la confiture des croix. Alors, confiez-vous à la Sainte Vierge pour avancer. Mais je vous promets une chose solennellement, c'est qu'un jour, on va finir par combler le trou et on va se sentir bien, avec une dent toute neuve, merveilleuse. Et ça va être l'objet des 2 dernières semaines. Voilà, je vous dis ça parce que ne faut pas vous décourager. De fait, c'est difficile. Et le père de Montfort, il a des mots très forts. Vous avez vu ça? Par moments, c'est peut-être même encore pire cette semaine. Mais d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut tenir compte du langage de l'époque, évidemment. Voilà, faites la part des choses dans le langage de l'époque, mais en même temps que ça nous travaille un peu, c'est bien. Il faut ça, justement. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher au fond de nous-mêmes, de nous laisser travailler intérieurement pour que peu à peu, eh bien, nous entrions dans cette consolation, cette tendresse de Dieu qu'il va nous donner. Mais pour cela, il faut aller chercher la racine du péché. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans l'imitation de Jésus-Christ, vous avez lu, il y a, parfois ça s'adresse aux religieux, parce que c'est un ouvrage qui a été écrit aux religieux. Alors vous dites, moi ça ne me concerne pas, c'est pour les religieux, ils parlent de la sainte règle, il faut obéir à la sainte règle, etc. Ok. Mais faites le parallèle avec votre vie. C'est-à-dire, évidemment, vous n'avez pas une règle de vie religieuse, mais dans votre vie, vous pouvez vous dire, quand on parle de la sainte règle, vous pouvez vous dire, bah tiens, je me suis établi combien de temps de prière par jour? Est-ce que je le tiens? Est-ce que j'essaye de temps en temps de faire plaisir à mon époux, à mon épouse? Est-ce que dans ma règle de vie, je ne sais pas, je me ménage quelques mortifications? Est-ce que je le fais effectivement? Vous voyez, faites le parallèle avec votre vie. Évidemment, vous n'êtes pas ni religieux ni religieuse, mais il faut prendre ce que l'on peut prendre chacun de cela. Et qui peut nous aider dans notre vie de baptisés et de chrétiens. Allez, courage. Donc, nous continuons. Et après ces 12 jours consacrés à se vider de l'esprit du monde, il faut maintenant chercher à construire notre vie intérieure. Cette première semaine des 3 que nous allons vivre consiste à mieux se connaître soi-même et à entrer dans un esprit d'humilité. Ainsi, nous pourrons rejoindre Notre-Dame dans ce qui la caractérise et par elle atteindre Jésus. Notre âme, Marie, Jésus, remarquera dès maintenant cette place donnée par le Père de Montfort à la Très Sainte Vierge dans ses exercices spirituels. C'est la même qu'il lui donne dans la consécration. Marie est là, à sa vraie place, sa place de médiatrice, c'est-à-dire entre le Christ et nous, celle voulue par Dieu, et la seule en harmonie avec le plan intégral de notre réparation. Saint Louis-Marie se réfère, vous l'avez peut-être remarqué, souvent à Saint Augustin. Il n'est donc pas étonnant qu'on le retrouve dans sa spiritualité les traits de la théologie de l'évêque d'Hippone. Et celui-ci a puisé dans son expérience les éléments d'analyse de la situation de l'être humain en face de Dieu. Le péché a détourné l'homme de sa vocation première et lui donne d'errer à la recherche de la vérité et du bien. C'est pourquoi je vais vous citer beaucoup saint Augustin ce soir, faire le parallèle justement avec le père de Montfort et pour vous faire comprendre pourquoi justement on ressent cet abîme, cet écart entre notre misère, notre état de créature pécheresse et l'infini de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Premièrement, d'abord partons de ce qui est à l'origine, la beauté originelle de l'homme. Le jour 2, vous verrez, vous méditerez sur les talents qui sont les vôtres. Tout part d'un acte extraordinaire qui fait de nous la plus belle des créatures de Dieu. Et l'émerveillement doit constituer une part fondamentale de notre vie spirituelle. Est-ce que nous savons nous émerveiller? Il y a un beau texte de la sagesse aujourd'hui dans la liturgie, et justement qui présente la création, les constellations, etc., et qui invite à cette contemplation. Est-ce que nous savons nous émerveiller de ce que Dieu a fait? Mais est-ce que vous savez vous émerveiller de vous-même? Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. Vous connaissez cette phrase? C'est une phrase d'un psaume. Est-ce que nous savons nous émerveiller de la beauté de la création? La Vierge Marie est un vivant exemple de cette louange, de cette action de grâce, de cet émerveillement. Et vous le savez, elle chante son Magnificat. Elle rend tout à Dieu. Dieu lui a tout donné. Elle est la plus belle des créatures, mais elle ne garde rien. Tout est rendu à Dieu. Tout dans l'homme était lumineux, sans ténèbres, dit le Père de Montfort, beau sans laideur, pur sans souillure, réglé sans désordre et sans aucune tache ni imperfection. Il avait pour apanage la lumière de la sagesse dans son esprit, par laquelle il connaissait parfaitement son Créateur et ses créatures. Il avait la grâce de Dieu dans son âme, par laquelle il était innocent et agréable aux yeux du Très-Haut. Il avait dans son corps l'immortalité. Il avait le pur amour de Dieu dans son cœur, sans crainte de la mort, par lequel il l'aimait continuellement, sans relâche et purement, pour l'amour de lui-même. Enfin, il était si divin qu'il était continuellement hors de lui-même, transporté en Dieu, sans qu'il eût aucune passion à vaincre, ni aucun ennemi à combattre. Ô libéralité de la sagesse éternelle envers l'homme, ô heureux état de l'homme dans son innocence. Belle description du Père de Montfort dans l'amour de la sagesse éternelle. Mais certes, vous allez me dire, il s'agit de l'état d'innocence. Depuis, les choses ont un peu évolué. Mais l'œuvre de Dieu dans son essence n'est pas détruite. Elle est seulement blessée. Nous sommes toujours à l'image de Dieu, certes, nous avons perdu la ressemblance, comme aiment à le dire les pères de l'Église. Mais nous pouvons donc encore nous émerveiller de participer malgré tout à cette beauté divine. Mais il faut constater, vous le faites avec moi, qu'il est advenu un drame terrible qui a abîmé cette beauté de la création originelle. C'est le drame du péché. Malheur des malheurs, voilà ce vaisseau tout divin qui se brise en mille morceaux. Voilà cette belle étoile qui tombe, voilà ce beau soleil qui est couvert de boue. Voilà l'homme qui pêche et qui, en péchant, perd sa sagesse, son innocence, sa beauté, son immortalité. Et enfin, il perd tous les biens qu'il avait reçus et est assailli d'une infinité de maux. Il a l'esprit tout hébété et ténébreux, c'est bien l'expression du Père de Montfort. Il ne voit plus rien. Il a le cœur tout glacé pour Dieu. Il ne l'aime plus. Il a l'âme toute noire de péché. Elle ressemble au démon. Il a des passions toutes déréglées. Il n'en est plus le maître. Il n'a que la compagnie des démons. Il en est devenu la demeure et l'esclave. Il est attaqué des créatures. Elles lui font la guerre. Voilà le drame du péché dans notre vie. Il faut bien s'y atteler, mes amis. Nous avons un fond pécamineux, un fond de péché. Et on ne peut vraiment le découvrir, ce fond de péché, que par la grâce de Dieu. Vous vous souvenez, à l'origine, les hommes étaient pécheurs. Et à force de pécher, leur conscience morale a été enténébrée. Et Dieu par grâce, a dû leur donner la loi pour leur révéler où est le péché. C'est ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Et en donnant la loi, il désigne le péché. Mais la loi ne fait que désigner le péché. Elle est un joug qui pèse sur nos épaules parce que la loi ne guérit pas du péché. C'est le Christ rédempteur et seulement lui qui nous donne de mieux découvrir la noirceur de notre péché. En regardant Jésus, notre rédempteur, Dieu fait homme, qui meurt pour nous sur la croix, alors nous pouvons découvrir par contraste le drame de notre péché. Si nous ne connaissons pas bien Jésus-Christ, nous ne pouvons pas bien connaître notre péché. Si nous ne connaissons pas bien notre péché, nous ne pourrons pas bien connaître Jésus-Christ et sa miséricorde. Car qu'est-ce que cette miséricorde qui ne concernerait pas le péché ou qui s'appliquerait là où il n'y aurait pas de péché? Ça ne servira à rien. Ce serait de la guimauve. Plus nous connaissons notre péché, plus nous voyons en vérité l'abîme qu'il creuse entre Dieu et nous, et plus alors nous serons fous de joie de voir la miséricorde du Seigneur gratuite. Mais il faut commencer en vérité à voir notre mal et notre drame. Et ça, c'est toute l'idée de saint Augustin, qui en a fait l'expérience dans sa vie personnelle, où il errait à la recherche de la vérité. Il s'est fourvoyé chez les manichéens et tant d'autres dans des idées à lui, sans parvenir à trouver la vérité. Il a été esclave de ses passions. Après une maîtresse, a eu un enfant. Il a été difficile pour lui d'en être délivré. Mais parce qu'il a fait l'expérience dans sa chair, dans son âme, de cette noirceur du péché qui l'empêchait de toucher ce à quoi il aspirait, parce qu'il l'a compris après, dans son cœur, il y avait un vrai désir que Dieu avait semé. Mais tant qu'il n'a pas eu rencontré Jésus, il n'a pas pu se guérir du péché. Mais quand il l'a eu découvert, alors il était fou de joie et de bonheur de savoir à quel point il était aimé. C'est une grâce, en effet, c'est une grâce de Dieu qui permet de mesurer l'abîme qui nous sépare de l'infinie sainteté de Dieu. Ô éternelle vérité, c'est saint Augustin, ô vraie charité, ô chère éternité, vous êtes mon Dieu. Après vous, je soupire jour et nuit, et dès que je pus vous découvrir, vous m'avez soulevé pour me faire voir qu'il me restait infiniment à voir et que je n'avais pas encore les yeux pour voir. Et vous éblouissiez ma faible vue de votre vive et pénétrante clarté, et je frissonnais d'amour et d'horreur. Et je me trouvais bien loin de vous, aux régions de la dissemblance, où j'entendais à peine votre voix descendue d'en haut. Comme il est beau ce texte de saint Augustin, qui comprend que c'est la grâce de Dieu qui le soulève vers lui, mais en même temps qui lui fait voir que sans lui, sans le Seigneur, il ne peut rien, lui Augustin, qu'il ne peut rien. Et qu'il est prisonnier de son péché, de ses passions. À la fois, il contemple l'amour de Dieu et en même temps le drame d'en être séparé par le péché. J'errai dans la région de la dissemblance. Cette expression de saint Augustin ne désigne pas seulement le bourbier du péché, pensez à l'enfant prodigue, au fils prodigue, dans lequel l'âme s'enfonce. Et Plotin, qui était le maître d'Augustin, disait comme l'esprit dans la prison de la matière. Mais au-delà de ça, c'est plus fondamentalement encore que la question du péché, la différence, excusez-moi d'un mot un peu savant, ontologique entre créateur et créature. Ça veut dire la différence d'être. Dieu est le créateur, l'infiniment parfait, l'être parfait, l'infini. Et nous, nous sommes des pauvres créatures. Il y a un abîme infranchissable par nous. Et le péché ne fait qu'ajouter à ce drame, à cette séparation. Et l'âme prend soudain conscience, alors même qu'elle reçoit la lumière du Créateur, de cet abîme. C'est dans ce retournement vers sa source que l'homme perçoit cette distance, ce retournement vers Dieu. Sans le Créateur, la créature n'est rien. Elle ne se connaît vraiment que dans la lumière divine. Augustin parle de cette dissemblance due au péché, alors que Dieu avait créé l'homme à l'origine à son image et à sa ressemblance. Saint Louis-Marie invite à invoquer l'Esprit Saint. Vous avez remarqué qu'on le fait et qu'on continuera de le faire tout le temps pendant les exercices, pour acquérir la lumière sur Dieu et sur nous-mêmes. Il a des images fortes que vous pourrez lire sur notre état de pécheur. Elles vont vous frapper, même vous choquer peut-être. Tant mieux. Elles peuvent paraître noires et pessimistes. Il dit que nous sommes orgueilleux comme des paons. Nous sommes paresseux comme des limaces. Allez. Mais il se situe dans la veine de saint Augustin pour mieux mettre en valeur la gratuité de la miséricorde et la joie qui en découle. Pour nous vider de nous-mêmes, dit-il, il faut premièrement bien connaître par la lumière du Saint-Esprit notre mauvais fond, notre incapacité à tout bien utile au salut. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire notre salut. Hein. Ce n'est pas du Père de Montfort, hein. C'est déjà saint Paul. Notre faiblesse en toutes choses, notre inconstance en tout temps, notre indignité de toute grâce et notre iniquité en tout lieu. Le péché de notre premier Père nous a tous presque entièrement gâtés, aigris, élevés et corrompus, comme le levain aigri élève et corrompt la pâte où il est mis. Les péchés actuels, les péchés que nous faisons habituellement, que nous avons commis, soit mortels, soit véniels, quelque pardonnés qu'ils soient, ont augmenté notre concupiscence, notre faiblesse, notre inconstance et notre corruption et ont laissé de mauvais restes dans nos âmes. Ça paraît bien pessimiste, non? Mais vous savez ce que dit saint Augustin? L'humanité n'est qu'une massa peccati, une masse de péchés. Pire, une massa damnationis, une masse de damnation. Dieu ne nous doit rien et nous ne méritons qu'une chose, l'enfer. C'est gai ce que je vous raconte ce soir, non? Mais mes amis, si nous n'avons pas conscience de ça, comment aurons-nous conscience de l'infinie bonté de Dieu pour nous? Comment pourrons-nous mesurer le poids de l'amour de Dieu pour nous? C'est pour ça qu'il faut passer par cette étape des prises de conscience. Vous voyez, même nos péchés pardonnés, nous le savons par expérience. Le Seigneur, dans sa bonté, nous pardonne, nous donne sa miséricorde. Nous allons la chercher dans le sacrement de pénitence. Mais pour autant, plus nous péchons, plus le péché laisse des traces en nous. Comme dans le malade guéri, mais convalescent et affaibli. Oui. Même dans la guérison, eh bien, nous subissons quand même les conséquences de nos choix mauvais. Ainsi, il nous faut mourir à nous-mêmes. Il y a une urgence de notre conversion, ce sera le jour 4. Le baptême nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ. Et il y a une bonne mort, vous le saviez, qui consiste à mourir au péché pour renaître à la vie divine. Voilà une bonne mort. Mort à soi-même, mort au péché. Et la mort terrible, ça c'est Origène qui disait ça, celle qu'il faut éviter à tout prix, c'est la mort du péché. Mais la bonne mort, c'est la mort au péché. Dans la logique même du baptême, le père de Montfort invite à une ascèse, un entraînement. Vous savez que le mot ascèse veut dire ça, c'est l'entraînement au stade des athlètes. Pour renoncer aux œuvres de mort qui nous entraînent au péché et nous y maintiennent. Pour nous vider de nous-mêmes, il faut tous les jours, dit-il, mourir à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut renoncer aux opérations des puissances de notre âme et des sens du corps, qu'il faut voir comme si on ne voyait point, entendre comme si on n'entendait point, se servir des choses de ce monde comme si on ne s'en servait point. Ce que saint Paul appelle mourir tous les jours. C'est-à-dire qu'il veut dire qu'il faut renoncer à ce qui nous détourne vraiment de Dieu dans ce monde. Oh, il y a des belles choses dans ce monde, heureusement, et beaucoup. Mais il y a aussi tellement de choses auxquelles nous nous attachons et qui nous empêchent d'avancer, de progresser. Nous ne sommes pas seuls dans cette mort à nous-mêmes. Il y a Marie au pied de la croix. Il nous faut combattre pour grandir dans l'humilité et avec elle avancer sur ce chemin. Quel est donc ce chemin qui nous aidera le mieux à cette mort salutaire? Il faut choisir, dit le père de Montfort, parmi toutes les dévotions à la très sainte Vierge, celle qui nous porte le plus à cette mort à nous-mêmes, comme étant la meilleure et la plus sanctifiante. Car il ne faut pas croire que tout ce qui reluit soit or, que tout ce qui est doux soit miel, et que tout ce qui est aisé à faire et pratiqué du plus grand nombre soit le plus sanctifiant. Le saint montre qu'il faut nous méfier de nous-mêmes, et souvent nous sommes notre pire ennemi, dans la mesure où nous voulons nous sauver par nous-mêmes. C'était déjà une hérésie dans l'Antiquité qui s'appelle le pélagianisme. Dieu seul nous sauve. L'orgueil est le frein le plus puissant à notre progrès spirituel. Et dans le texte suivant, il s'agit de mépriser en nous ce vieil homme rebelle et suffisant, non pas la créature merveilleuse de Dieu, et encore moins la grâce qui peut tout en cette créature. Je vous lis le texte, il va vous choquer. C'est du père de Montfort, vraie dévotion. « Par la lumière que le Saint-Esprit vous donnera, par Marie, sa chère épouse, vous connaîtrez votre mauvais fond, votre corruption et votre incapacité à tout bien, si Dieu n'en est le principe comme auteur de la nature ou de la grâce. » C'est-à-dire, on est incapable de tout bien, sinon, à moins que Dieu nous donne sa grâce pour pouvoir faire le bien. Il est bien d'accord, le père de Montfort. Et je pense qu'il connaissait le Concile de Trente. Et ensuite de cette connaissance, vous vous mépriserez. Vous ne penserez à vous qu'avec horreur. Vous vous regarderez comme un limaçon qui gâte tout de sa bave, ou comme un crapaud qui empoisonne tout de son venin, ou comme un serpent malicieux qui ne cherche qu'à tromper. Enfin, l'humble Marie vous fera part de sa profonde humilité. Qui fera que vous vous mépriserez, je vais m'expliquer. Vous ne mépriserez personne et vous aimerez le mépris. Pas très encourageant ça. Mais ce n'est pas dans le sens, évidemment, qu'il faut se mépriser. Vous avez bien compris, le père de Montfort, il montre la beauté de la créature. Il ne veut pas qu'on méprise en nous-mêmes, c'est contraire à sa pensée. Il ne veut pas qu'on méprise en nous-mêmes ce que Dieu a fait de beau et de bon. Il y a un juste amour de soi qui est nécessaire. Mais il veut que nous ayons mépris en nous pour ces vieils hommes, comme dit saint Paul, pour le dire avec l'expression de saint Paul. Ce qui en nous est corrompu, et c'est l'aspect du vieil homme. Et nous sommes venus des hommes et des femmes nouveaux par le baptême. Ça mérite d'être aimé. Mais en nous, il faut mépriser justement ce qui nous empêche de nous ouvrir à la nouveauté de la grâce en Jésus-Christ. Une fois qu'on a dit ça, qu'il y a ce drame du péché, maintenant, il faut aller chercher en nous pour remédier et nous tourner vers le Seigneur, une fois qu'on a fait l'examen de conscience, le désir de Dieu profond. D'abord, il faut se méfier. Il y a, dans notre vie, souvent, une vaine recherche des créatures. C'est un peu le thème d'aujourd'hui, là, d'être vigilant. Le diable, c'est le champion du monde de l'inversion des valeurs. Et la faille du péché consiste à idolâtrer les créatures en lieu et place du Créateur. Les créatures doivent demeurer à la place qui est la leur, toutes les choses créées, nous y compris. Seul Dieu mérite notre adoration et lui seul, et ça c'est important, peut combler nos cœurs. Saint Augustin disait « Cause de péché que tout cela, quand le dérèglement de nos affections abandonne pour ses biens infimes, abandonne quoi ? Les plus excellents, les plus sublimes. Vous, Seigneur notre Dieu, et votre vérité et votre loi, ces biens d'ici-bas ont leur charme, mais qu'est-il auprès de mon Dieu, créateur de l'univers, unique joie du juste, délice des cœurs droits ? Jusqu'à quand, ajoute le père de Montfort, enfant des hommes, aurez-vous le cœur pesant et tourné vers la terre ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge ? Pourquoi ne tournez-vous pas vos yeux et vos cœurs vers la divine sagesse, qui de toutes les choses qu'on peut désirer est la plus désirable, qui pour se faire aimer des hommes découvre elle-même son origine, montre sa beauté, étale ses trésors et leur témoigne en mille manières les désirs qu'elle a, qu'il la désire et la recherche. C'est Jésus notre trésor. C'est Jésus qui seul peut combler notre cœur. Non pas les créatures, aussi bonnes soient-elles, les choses aussi belles soient-elles, mais seul Dieu est à la mesure du désir qu'il a semé dans le cœur de chacun d'entre nous. Et vous connaissez cette belle phrase de saint Augustin au début de ses confessions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Notre prière doit être à la mesure de ce désir. Et si on n'arrive pas à désirer, dit saint Augustin, il faut désirer, désirer, car la sainteté est une affaire de désir intense. Le cœur inquiet, c'est le cœur sans repos, le cœur troublé qui s'évade vainement dans ce qui ne pourra jamais le rassasier totalement. Pas étonnant donc que la prière soit au cœur de la dévotion promue par le Père au Grand Chapelet, comme on l'appelait. Mais attention, cette prière ne doit pas être vécue comme une routine, une obligation légale relative à un engagement pris. Elle doit se faire intérieure et fervente pour que soit attisé le désir. Et là, j'aurais été tenté de vous citer la lettre de saint Augustin à Proba sur la prière, mais moi, je vais être trop long. Plus un don de Dieu est grand, dit le père de Montfort, et plus il est difficile à obtenir. Quelle prière donc, quels travaux n'exigent pas le don de la sagesse, qui est le plus grand de tous les dons de Dieu ? Écoutons ce que dit la sagesse même. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Comme si elle disait, si vous voulez me trouver, il faut me chercher. Si vous voulez entrer en mon palais, il faut frapper à ma porte. Si vous voulez me recevoir, il faut me demander. Personne ne me trouve s'il ne me cherche, personne n'entre chez moi s'il ne frappe à ma porte, personne ne m'obtient s'il ne me demande, et tout se fait par la prière. La prière, ajoute-t-il, est le canal ordinaire par lequel Dieu communique ses grâces et particulièrement sa sagesse. Mais il y a un autre aspect qui est important pour attiser le désir dans nos cœurs, c'est la mortification des sens. Et le jour 5, vous verrez, c'est me détacher de mes biens. Dans la logique du renoncement au monde et à son esprit, il faut chercher la juste mesure de la mortification, qui peut être diverse selon la situation de chacun, selon la santé, selon l'âge, selon qu'on travaille ou pas, que sais-je. Il est clair que la satisfaction systématique des sens occulte les désirs spirituels profonds de l'âme et empêche la grâce de venir nous purifier. et embraser les braises de charité déposées en nos cœurs au jour du baptême. La sagesse, dit le Saint-Esprit, dans la vraie dévotion, ne se trouve point chez ceux qui vivent à leur aise, qui donnent à leur passion et à leur sens tout ce qu'ils désirent, car ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu, et la sagesse de la chair est ennemie de Dieu. Ne vous imaginez pas que cette sagesse, plus pure que les rayons du soleil, entre en une âme et un corps souillés par les plaisirs des sens. Ne croyez pas qu'elle donne son repos, sa paix ineffable, à ceux qui aiment les compagnies et les vanités du monde. Ce cri de Saint Louis-Marie répond au magnifique passage des Confessions. Là, je ne résiste pas à la tentation de vous le lire, Saint Augustin qui dit comme ça. Je vous ai aimé bien tard, beauté si ancienne, beauté si nouvelle. Je vous ai aimé tard, mais quoi ? Vous étiez au-dedans et moi au-dehors de moi-même. Et c'est au-dehors que je vous cherchais et je poursuivais de ma laideur la beauté de vos créatures. À cause de son péché, hein. Vous étiez avec moi et je n'étais pas avec vous. Retenu loin de vous par tout ce qui, sans vous, ne serait que néant. Oui, les créatures ne seraient rien sans le Seigneur. Vous m'appelez, et voilà que votre cri force la surdité de mon oreille. Votre splendeur rayonne, elle chasse mon aveuglement. Votre parfum, je le respire, et voilà que je soupire pour vous. Je vous ai goûté, et me voilà dévoré de faim et de soif. Vous m'avez touché, et je brûle du désir de votre paix. Quel beau texte! Alors, vous le savez, nous sommes là pour justement désirer le Seigneur et acquérir la sagesse. Je vous rappelle, consécration à Jésus, sagesse incarnée par les mains de Marie. Et tout le but de notre démarche, c'est d'acquérir cette sagesse éternelle, le Verbe de Dieu, appelez le Fils, appelez-la la sagesse, Jésus lui-même, bien sûr. Et il y a donc un appel à la vie intérieure. Cette consécration vise à une union plus intime avec Jésus, afin qu'il soit le tout de nos vies. Autrement dit, nous devons vivre Jésus, penser Jésus, parler Jésus, réfléchir Jésus, dormir Jésus, marcher Jésus, travailler Jésus, etc. L'idée étant d'être totalement imprégné de la présence de Jésus, la dévotion proposée ne peut pas se contenter, et vous le comprenez, d'actes extérieurs, aussi bons et nécessaires soient-ils. Il y en a, comme des prières, le port d'une médaille, de chaînes, tout ce que vous voulez. Il s'agit d'entrer dans un cœur à cœur permanent avec le doux hôte de nos âmes, et de tout faire avec Jésus, par Jésus, en Jésus et pour Jésus. Saint Augustin implorait le Seigneur de lui manifester sa présence. Que je vous connaisse, intime connaisseur de l'homme, que je vous connaisse comme vous me connaissez. Force de mon âme, pénétrez-la, transformez-la pour qu'elle soit vôtre et par vous possédée sans tache et sans rides. C'est là tout mon espoir, toute ma parole. Ma joie est dans cet espoir lorsqu'elle n'est pas insensée. Quant au reste des choses de cette vie, moins elles valent de larmes, plus on leur en donne. Plus elles sont déplorables, moins on les pleure. Mais vous l'avez dit, vous aimez la vérité, Seigneur, et celui qui l'accomplit vient à la lumière. Qu'elle soit donc dans mon cœur qui se confesse à vous, qu'elle soit dans cet écrit qui me confesse à tous. Ainsi, la dévotion ne consiste pas essentiellement en des pratiques particulières. Elle cherche à devenir un état permanent de vie dans le Christ. Comme l'essentiel de cette dévotion, dit Saint Louis-Marie, consiste dans l'intérieur qu'elle doit former, elle ne sera pas également comprise de tout le monde. Quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur, et ne passeront pas outre, et ce sera le plus grand nombre. Quelques-uns, en petit nombre, entreront dans son intérieur, mais ils n'y monteront qu'un degré. Qui est-ce qui montera au second? Qui parviendra jusqu'au troisième? Enfin, qui est celui qui y sera par état? Celui-là seul, à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret et y conduira lui-même l'âme bien fidèle pour avancer de vertu en vertu, de grâce en grâce, de lumière en lumière, pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ et à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans le ciel. Saisissez, mes amis, donc sur le chemin dans lequel nous nous engageons. Ce n'est pas simplement réciter une consécration le 8 décembre, puis après c'est bien, on a fait notre job, on a fait 33 jours de préparation. Non. Cette consécration nous engage. Elle nous engage dans un état d'esprit. Certes, il y a des pratiques extérieures, parce qu'il est bon d'entretenir, nous sommes incarnés, nous ne sommes pas des purs esprits, nous avons besoin de prières, de toucher, de dévotion, de gestes extérieurs. Tout ça est très bien. Mais si tout cela ne va pas toucher au plus profond notre cœur, si nous ne cherchons pas à vivre dans cette intimité avec Jésus au long du temps, alors nous passerons à côté. Et justement, la dévotion que nous propose le Père de Montfort, c'est de nous entraîner à cette vie avec Jésus en permanence. Mais pour vivre avec Jésus en permanence, eh bien, il faut vivre en Marie, c'est ce qu'il dit. Et pour cela, il dit, il suffit d'observer l'exemple même du Maître, Jésus qui se soumet à Marie, 30 ans sur 33, excusez du peu, puis encore un peu plus après, parce qu'à Cana, il lui obéit, etc. Ainsi, nous imiterons Jésus en nous livrant à elle, et nous l'y trouverons plus sûrement qu'en n'importe quel autre endroit. Second motif, dit le Père de Montfort, qui nous montre qu'il est juste en soi-même et avantageux aux chrétiens de s'en consacrer tout entier à la très sainte Vierge par cette pratique, afin d'être plus parfaitement à Jésus-Christ. Ce bon maître n'a pas dédaigné de se renfermer dans le sein de la sainte Vierge comme un captif et un esclave amoureux, et de lui être soumis et obéissant pendant 30 années. Ayant devant nos yeux un exemple si visible et si connu de tout le monde, sommes-nous assez insensés pour croire trouver un moyen plus parfait et plus court pour glorifier Dieu que celui de se soumettre à Marie, à l'exemple de son fils? Pas grand-chose à argumenter contre, hein, n'est-ce pas? Et j'y arrive, et c'est la dernière partie de mon exposé de ce soir, à cette notion très importante, qui est la notion clé de la consécration, mais qui mérite d'être expliquée plus longuement, dès maintenant, afin de s'y préparer, d'y mieux réfléchir. C'est d'autant plus nécessaire que, dans un premier temps, cette notion rebute, à juste titre. Et au-delà du mot, nous allons chercher à comprendre ce que Saint Louis-Marie veut dire. Il parle donc du Saint-Esclavage. Alors, entrons dans le vif du sujet. D'abord, ce que je veux vous dire au sujet du Saint-Esclavage. Père Montfort est signé toujours « Montfort, esclave de Jésus vivant en Marie ». Alors, première chose, premièrement, le Père de Montfort n'invente pas ce terme, ni cette idée. Ce concept est très ancien. Il est tellement ancien qu'il suffit de le prendre dans l'Écriture sainte, figurez-vous. Alors, ben commençons par le commencement. C'est le même qui reçoit la visite de l'ange Gabriel, la Vierge Marie. Que dit-elle pour répondre au Seigneur? « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Excusez-moi, mais la Sainte Vierge ne dit pas « Voici la boniche du Seigneur » ou « La domestique du Seigneur ». Non, le mot grec est très précis. « Voici la doulée du Seigneur ». Et mes amis, regardez dans tous les dictionnaires de grec anciens, vous verrez « doulée », il n'y a pas de doute, c'est « esclave ».« Femme esclave », « doulos », c'est « l'homme esclave ».
c'est esclave.
Je suis l'esclave du Seigneur. Alors on édulcore toujours dans la traduction parce que ça nous chiffonne un peu. Mais c'est quand même ça qu'elle dit la Sainte Vierge. Il y a d'ailleurs d'autres mots pour dire serviteur ou servante dans le Nouveau Testament. Par exemple, il y en a un que vous connaissez, diakonos, le diacre, c'est le serviteur, non ? C'est un autre mot. Il y en a un autre qui est oiketes. Oiketes, c'est, ça vient d'oikia, c'est la maison, c'est le domestique, l'employé de maison, si vous voulez. Vous voyez, on aurait pu utiliser un autre mot. Non. Je suis la doulée du Seigneur. Ça veut dire que la Vierge Marie, elle répond à l'ange dans une soumission totale, absolue, d'elle-même à la volonté divine. Dans l'abandon de toute sa vie à son Dieu, malgré les incompréhensions toutes humaines, des tenants et aboutissants de cette situation mystérieuse qu'elle vit, et dangereuse, parce que je vous rappelle que quand elle dit son oui, elle signe son arrêt de mort. Mais oui, femme adultère, lapidée. Il faut une dose de confiance et de foi dans le Seigneur, quand même pas banale, vous l'admettrez. Dans la parabole du gérant habile, vous souvenez cette parabole, dit parfois aussi le gérant malhonnête, le Seigneur conclut, vous en souvenez, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Bien qu'il s'agisse d'une histoire de domestique, parce que là c'est un oiketes, justement, c'est un domestique, un employé de maison, qui rend des comptes à son maître, mais la conclusion prend un tour plus radical, et justement elle dit, vous ne pouvez pas, douleein, le même verbe, le verbe qui correspond à doulé, être esclave, autrement dit, de Dieu, et pas l'argent, comme on traduit trop facilement et trop rapidement, et de mammon. Mammon, c'est la divinité de l'argent, c'est pas pareil. Ce qui veut dire que le Seigneur dénonce, en fait, les faux dieux. Il faut choisir, soit le vrai Dieu, soit les faux dieux. Et il faut être esclave, soit du vrai Dieu, soit des faux dieux. Alors on va voir comment. Le Seigneur invite à un choix clair qui ne tergiverse pas, bien conforme à ce qui est souvent rapporté dans l'Écriture. Vous connaissez le psaume 1, dit des deux voix, vous le relirez. Et puis saint Paul, qui s'adresse à ceux des frères chrétiens de Colosse qui sont esclaves, les encourage à faire leur travail de bon cœur, car finalement, dit-il, c'est le Christ Seigneur que vous servez, que vous douleux étiez. Encore le même verbe. Vous n'êtes pas tout à fait convaincu par l'Écriture sainte. Alors, les pères de l'Église, ils vont dans le même sens. Évidemment, puisqu'ils retrouvent cette notion d'esclavage dans l'Écriture. Saint Cyrille de Jérusalem, évêque de Jérusalem au IVe siècle, célèbre par ses catéchèses aux catéchumènes, catéchèses baptismales, et qui dit « Si quelqu'un cependant est ici l'esclave du péché, que la foi le dispose immédiatement à la régénération libératrice de l'adoption filiale, le baptême. Qu'il dépose le funeste esclavage du péché et acquiert le bienheureux esclavage du Seigneur et soit ainsi jugé digne d'avoir en héritage le royaume des cieux. » Très paradoxalement, la liberté intérieure s'obtient dans un esclavage volontaire du Seigneur. En un temps où l'esclavage n'était pas encore aboli, la résonance était d'autant plus forte quand le père de Montfort disait ça. Saint Augustin également décrit cette redoutable opposition qui veut nous lier des deux côtés. Dans ses confessions, il se rappelle son expérience hésitant à se convertir vraiment. « J'avais la certitude qu'il valait mieux me donner à ton amour que de m'abandonner à ma convoitise. Mais l'un plaisait et me pliait, l'autre m'attirait et me liait à lui. » Et dans un autre passage, il explique comment le péché enchaîne, nous lie dans un esclavage. L'ennemi tenait mon vouloir, il m'en avait fait une chaîne et il me serrait étroitement. Oui, de la volonté perverse naît la passion, de l'esclavage de la passion naît l'habitude et de la non-résistance à l'habitude naît la nécessité. Et par ces sortes de maillons reliés entre eux, c'est pourquoi j'ai parlé de chaîne, dit saint Augustin, me retenait dans ces liens étroits une dure servitude. Le mot en latin, c'est dura servitus, un dur esclavage. Et il oppose à ce dur esclavage, dans d'autres textes, ce qu'il appelle la libera servitus, un libre esclavage de l'homme qui vit sous le régime de la grâce, dans l'union avec son Seigneur. Par exemple, il en parle en commentant le psaume 99 que je vous cite. Il dit « C'est être libre que servir le Seigneur, c'est être libre puisqu'on le sert non par contrainte, mais par amour. Que la charité te rende esclave, puisque tu es l'affranchi de la vérité. Te voilà donc esclave, esclave et libre. Esclave parce que tu as été créé. » Ah oui, vous et moi, on n'a pas choisi et on dépend de Dieu du fait d'exister. C'est clair. Libre parce que tu es aimé de Dieu, ton Créateur, ou plutôt libre parce que tu aimes celui qui t'a créé. Ne le sers donc point avec murmure. Tes murmures ne te dispenseront point de le servir, seulement ils feront de toi un mauvais serviteur. Tu es le serviteur du Seigneur, l'affranchi du Seigneur. Oui, je vous souviens, à la fois on est esclave et en même temps on est affranchi. Ne désire point la liberté au point d'être mis hors de la maison de celui qui t'a affranchi. Le Seigneur nous a arraché un esclavage du péché. Il ne faut pas qu'on se précipite à cause de notre liberté dans un autre esclavage. Et donc, il faut s'attacher au Seigneur. Et là, nous trouvons, par cet esclavage amoureux, je leur dirais, nous trouvons la vraie liberté et la vraie joie. On voit bien que cette libera servitus, cet esclavage libre, n'est possible que dans un acte volontaire d'amour inconditionnel pour le Seigneur, à qui le fidèle se livre totalement après avoir été saisi par la vérité qu'il a extirpée des chaînes du péché. On verra que le père de Montfort s'inscrit pleinement dans cette ligne augustinienne en proposant ce qu'il appelle l'esclavage d'amour. Mais bon, ma petite recherche, là, elle ne peut pas être exhaustive. Vous lirez dans le livre, je cite aussi l'imitation de Jésus-Christ. En revanche, je vais vous citer quelque chose qui n'est pas dans le livre, vous ne trouverez pas dans le livre, qui est une citation de sainte Thérèse d'Avila. Excusez du peu quand même, l'autorité en matière de spirituelle. Et de doctrine spirituelle. Voilà ce qu'elle dit, sainte Thérèse. C'est dans les septièmes demeures. Savez-vous quand on est vraiment spirituel? C'est quand on se fait l'esclave de Dieu. Et que, à ce titre, non seulement on porte son empreinte qui est celle de la croix, mais qu'on lui remet sa liberté, afin qu'il puisse nous vendre comme les esclaves de l'univers tout entier, et la chute est très importante, ainsi qu'il l'a été lui-même. Ainsi qu'il l'a été lui-même. Voilà le nœud d'explication. J'y reviendrai. D'ailleurs, si nous étions traités ainsi, ajoute-t-elle, il n'y aurait aucune injustice pour nous, mais au contraire une très haute faveur. Dès lors que l'on n'est pas déterminé à ce sacrifice, on n'a pas, croyez-moi, réalisé beaucoup de progrès. Car tout cet édifice, je le répète, a pour fondement, on y revient, l'humilité. Tant qu'il n'y a pas une humilité vraie, notre Seigneur, même dans votre avantage, ne l'élèvera pas très haut pour ne pas l'exposer à crouler. Vous voyez, le Seigneur est bon. Si on n'est pas assez humble, le Seigneur ne va pas nous mettre trop, parce qu'on serait exposé à se fourvoyer.
Mes sœurs, pour que cet édifice ait des fondements solides, chacune d'entre vous doit s'appliquer à être la plus petite de toutes et l'esclave de toutes. Alors, dans un deuxième temps, on approche de la fin. Le saint esclavage d'amour chez saint Louis-Marie, qu'est-ce qu'il en dit? Je suis un serviteur quelconque, vous méditerez ça pour le sixième jour là, de cette semaine. Il faut donc choisir appartenir au diable, vous l'avez compris, ou appartenir à Jésus-Christ. Mais il y a différentes sortes d'esclavage, père de Montfort le dit. Il y a trois sortes d'esclavage. Un esclavage de nature, un esclavage de contrainte et un esclavage de volonté. Toutes les créatures sont esclaves de Dieu en la première manière. Ben oui, on est tous créés par Dieu et on n'a pas choisi, ni vous ni moi, d'exister. Et voilà, donc on dépend de lui complètement, on est dans sa main. Les démons et les damnés en la seconde, l'esclavage de contrainte. Il a voulu s'émanciper, Lucifer. Mais en réalité, il est toujours sous la coupe de Dieu. C'est terrible d'ailleurs pour lui, parce qu'il dépend toujours de Dieu. Dans le fait même d'exister, il n'est qu'une créature. Il veut faire croire qu'il n'en est pas une, qu'il est à l'égal de Dieu. Mais non, il dépend de Dieu. C'est terrible pour lui. Il préférait aller dans le néant. Mais il dépend toujours de Dieu, dans son être. Très mystérieux. Et puis, les justes et les saints, dit-il, le sont en la troisième manière. L'esclavage de volonté est le plus parfait, ajoute-t-il, et le plus glorieux à Dieu, qui regarde... Ah, écoutez, ça c'est beau. Dieu qui regarde le cœur, et qui demande le cœur, et qui s'appelle le Dieu du cœur, ou de la volonté amoureuse. Parce que, par cet esclavage, on fait choix par-dessus toute chose de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. Vous voyez, Père de Montfort, il nous emmène dans nos profondeurs du péché, etc. Mais il sait aussi nous dire cette beauté du lien, de la relation unique que Dieu veut avoir avec sa créature, avec l'être humain. La volonté amoureuse. Voilà la notion clé de notre saint esclavage. C'est par une volonté offerte, une liberté totalement offerte, mais amoureuse, parce que sinon ça ne sert à rien, et ce serait même contraire à tout ce que voudrait dire le Père de Montfort. Ce mot esclavage, évidemment, il nous déplaît. Il est porteur de toute la culpabilité de l'Europe, de toute l'amertume des descendants des esclaves, tout ce qu'on veut. Et puis même si l'histoire n'est pas aussi manichéenne de la manière dont on la présente parfois, ceci dit, le mot esclavage est quand même chargé de répugnance, surtout depuis que la loi a aboli cette servitude inhumaine. Dans ce contexte, la spiritualité du Saint-Esclavage passe mal. Et il faut dire que, pour promouvoir la dévotion du Père de Montfort, on a eu tendance à l'édulcorer. Mais pourtant, ce serait nuisible à la juste compréhension de cette dévotion d'en évacuer en même temps la signification profonde. Qu'on dise dans la consécration « Je te livre en toute soumission et amour », c'est très bien. La vraie, celle qu'on dira, le 7 décembre, « Je te livre en qualité d'esclave ». Voilà. Bon, alors on a un peu peur de l'expression, donc on a un peu édulcoré. C'est pas grave. Vous pouvez dire « Je te livre en toute soumission et amour », pourvu qu'on ait compris le sens. Vous voyez, pourvu qu'on ait compris le sens, que c'est vraiment un don inconditionnel au Seigneur. Parce que sinon, on passe à côté de ce qu'a voulu vraiment nous transmettre Père de Montfort, et on va rester à la surface des choses. Et c'est dommage. Montfort s'en explique d'ailleurs, et veut montrer que le don que nous faisons de nous-mêmes à Jésus-Christ par Marie ne peut pas être un don à moitié et avec réserve. Voilà ce qu'il dit. Remarquez encore qu'il y a bien de la différence entre un serviteur et un esclave. Un serviteur veut des gages pour ses services. L'esclave n'en a point. On n'attend pas de récompense, vous vous souvenez? C'est un des faux dévots, là, l'intéressé. Le serviteur est libre de quitter son maître quand il voudra. Il ne le sert que pour un temps. L'esclave ne peut le quitter, justement. On ne s'engage pas pour un temps. On se donne à Dieu pour toujours. Il lui est livré ou il est esclave pour toujours. Le serviteur ne donne pas à son maître droit de vie, de mort sur sa personne. L'esclave se donne tout entier, en sorte que son maître pourrait le faire mourir sans qu'il y fût inquiété par la justice, qui était le cas autrefois. L'image est forte. Vous voyez, c'est dire que, voilà, nous sommes totalement dans les mains du Seigneur, abandonnés à lui. Bon, si vous voulez un récit plus détaillé, ce que je viens de vous lire, c'était dans le Secret de Marie, mais vous le trouverez aussi dans le traité de la vraie dévotion, numéro 71, c'est plus détaillé. Ainsi, ce don suppose de se donner tout entier, et tout ce qui nous appartient de biens matériels et spirituels, j'y reviendrai dans la dernière conférence. Ce don doit se vivre de manière détachée, sans exigence de retour, dans la mesure où Dieu ne nous doit rien. Il est en effet plus parfait de se donner au Seigneur par pur amour plutôt que dans un intérêt avoué ou non avoué. Ce don nous lie irrémédiablement au Seigneur, non seulement pour la durée de cette vie terrestre, mais pour l'éternité. Tous ces aspects sont propres au lien de dépendance de l'esclave. Et dans le paragraphe suivant, celui que je vous ai évoqué, de vraie dévotion, Grignon rappelle la tradition constante qui porte cette notion, justement, comme je vous le disais, à travers les siècles. Cependant, attention, et je réinsiste là-dessus, cet esclavage ne conviendrait aucunement aux chrétiens s'il s'agissait d'une dépendance servile et subie, d'une aliénation totale de la personne et de la volonté. On est bien d'accord. Et Père de Montfort est le premier d'accord. Ça, ce ne serait pas le saint esclavage. C'est quelque chose de terrible. C'est plutôt ce saint esclavage, l'offrande volontaire de soi, sans réserve, mais surtout, et vous l'écrivez en gros et en énorme, par amour, qui rend ce don si beau et fructueux. Et ce don est intrinsèquement lié aux engagements du baptême. Je dis, dit le Père de Montfort, que nous devons être à Jésus-Christ et le servir non seulement comme des serviteurs mercenaires, mais comme des esclaves amoureux. Des esclaves amoureux qui, par un effet d'un grand amour, se donnent et se livrent à le servir en qualité d'esclave pour l'honneur seul de lui appartenir. Avant le baptême, nous étions esclaves du diable. Le baptême nous a rendus esclaves de Jésus-Christ. Ou il faut que les chrétiens soient esclaves du diable ou esclaves de Jésus-Christ. C'est pourtant simple. D'ailleurs, et c'est là, les amis, tout vient de là. C'est pour ça que je termine par là. L'exemple vient du Seigneur Jésus lui-même. Formam servi accipiens. Et servi, c'est doulou, de doulos, l'esclave. Vous vous souvenez de ce texte, Philippiens 2. Il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave. On parle de Jésus, hein, du Verbe de Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Voilà la vraie raison de l'esclavage, du saint esclavage d'amour du Père de Montfort. Parce que Jésus l'a fait pour nous. Il s'est fait l'esclave de chacun d'entre nous, en se donnant, en se livrant, en s'abandonnant complètement à la haine des hommes, à leur violence, à leur injustice, à la mort. Voilà la vraie raison qui fait que si nous voulons vraiment répondre, et tenter en tout cas, de répondre à la hauteur du don de Dieu, comment pouvons-nous faire moins ? Se donner à Jésus en qualité d'esclave, c'est finalement prendre ce même chemin qu'il a emprunté pour nous rejoindre. Sauf que ce chemin descendant pour lui se fait ascendant pour nous, puisqu'en nous unissant intimement à lui dans la croix, il nous promet d'entrer dans la gloire avec lui. N'est-ce pas ce qu'ont vécu tous les saints, en commençant par la Vierge Marie elle-même à l'égard de Jésus ? Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et en raison du lien unique et particulier qui unit Jésus et Marie, sa Sainte Mère, et puisque tout ce qui convient à Dieu par nature, dit Père de Montfort, convient à Marie par grâce, ils ont tous les deux les mêmes sujets, serviteurs et esclaves. L'esclavage envers le Seigneur Jésus peut donc s'étendre à un esclavage envers la Vierge Marie, comme chemin assuré pour mieux appartenir entièrement à son Fils. Mais ce sera l'objet des prochaines conférences. Alors, à propos de la semaine qui vient, vous l'avez déjà commencé peut-être certains, alors nous arrivons là, à partir de cette semaine, il y a deux versions, la version longue et la version brève. Je vous mets à l'aise. Si vous ne sentez pas le temps de faire la version longue,
En fait, c'est moins long que je pensais, encore une fois, mais bon, tant mieux. Mais enfin, ça dépend toujours pareil, si on lit ça très vite ou si on médite. Mais bon, c'est pas si long que ça. Mais ceci dit, pas de problème, prenez la version brève. Même si vous avez pris la version longue, mais il y a un jour, pour X raisons, vous avez une journée très chargée, etc., n'ayez pas de scrupules, prenez la version brève ce jour-là. Pas très grave, vous voyez ce que je veux dire. Parce que dans la version brève, on reprend des textes de la version longue, des quelques textes essentiels, la version longue. Donc, c'est les mêmes textes, sauf que la version longue, c'est un peu développé, si vous voulez. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, si vous prenez la version longue et que y a un jour de la semaine où c'est plus compliqué, l'un ou l'autre, bah, prenez la version brève sans scrupule et vous retrouvez l'essentiel de la version longue sans avoir tout. Voilà. Donc, chaque matin, vous pouvez commencer d'abord en lisant peut-être l'intitulé du jour pour vous en imprégner, et puis je vous propose de dire tous les matins le Veni Sancte Spiritus qu'on a dit tout à l'heure et les litanies de la Sainte Vierge, éventuellement vous trouverez donc dans le livre. Et puis après il y a une petite méditation donc qui nous introduit un peu au terme de la journée, donc prenez le temps de lire cette méditation. Ce que je vous conseille, comme je l'ai conseillé pour les 12 jours, lisez-la le matin une fois tranquillement et puis reprenez-la le soir avant de vous coucher pour un peu, voilà, qu'elle vous imprègne, puis vous dire, tiens, avec les textes que j'ai lus entre deux, comment ça résonne en moi. Vous avez encore donc l'écriture sainte, c'est un peu plus long, hein, évidemment, si vous prenez la version longue. L'imitation de Jésus-Christ, je vous ai dit à propos de l'imitation de Jésus-Christ, prenez, voilà, adaptez à vous ce qui est dit pour des religieux. Évidemment, on ne demande pas de vivre comme des religieux, mais adaptez à vous ce que vous pouvez prendre. Hein. Et puis ensuite, il y a un petit passage en général de la traité de la vraie dévotion, mais assez bref. C'est surtout la semaine suivante qu'on va lire entièrement le traité de la vraie dévotion. Là où il y aura beaucoup de lectures la semaine suivante. Voilà. Puis le soir, vous pouvez reprendre, comme je vous ai dit, la méditation tranquillement. Et puis éventuellement dire les litanies du Saint-Esprit. Et puis l'Ave Maria Stella, mais ça vous avez l'habitude maintenant depuis 12 jours. Ça vous va le programme? C'est à peu près clair. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, même quand vous priez, le Seigneur, il sait déjà à l'avance ce que vous allez demander. Donc, les jardins secrets, c'est-à-dire, le Seigneur, il le sait, mais le Seigneur, il ne force jamais la porte de notre cœur. C'est un principe du bon Dieu, c'est qu'il est délicat. Il est tellement délicat que jamais il s'impose. Jamais, jamais, jamais. Et si nous ouvrons, oui, il le sait, le Seigneur, qui sait tout, mais si nous n'ouvrons pas notre cœur, le Seigneur ne va pas s'imposer. Il ne va pas nous montrer du doigt. Il ne va pas dire, mais là, tu as peut-être un petit problème que tu ne m'as pas exposé là. Un petit jardin secret, les choses que tu te gardes, voilà. Et que tu ne veux pas m'exposer parce que ça te gêne de peut-être te convertir, ou je ne sais pas. Vous voyez ? Et si nous, on ne fait pas cette démarche, eh ben, on va rester comme ça, puis finalement, on ne va pas avancer. Mais si on fait cette démarche de s'ouvrir et d'ouvrir un domaine de notre vie qu'on n'a pas envie d'ouvrir au Seigneur pour plein de raisons, hein, qui peuvent être liées à notre histoire, à nos blessures, à ce que c'est, le Seigneur ne va pas forcer la porte. Ça peut, oui, ça peut être un aspect, mais pas uniquement dans notre prière, oui, bien sûr, mais aussi dans notre prière, dans notre. Oui. Voilà. Mais c'est à nous de faire la démarche. Le Seigneur sait tout, mais c'est à nous de faire la démarche, et parce que c'est c'est-à-dire, ça nous concerne, nous, ça ne concerne pas le Seigneur, si je puis dire. Puisque Dieu sait tout. Ça répond ? Ça va ? Non, ça n'a aucune importance. C'est une suggestion. Organisez comme vous le voulez, c'est une suggestion que je vous fais. Mais après, soyez libre, voyez, soyez pas esclave de la forme pour ça. Vous voyez, moi je suis assez cool là-dessus. C'est-à-dire, si il y en a, ça arrange de tout faire en même temps. Moi, ça m'est arrivé hein, cette semaine, j'ai tout fait, même la dernière prière à la fin, et voilà. Parce que sinon, j'ai peur d'oublier après. Bon, voilà, chacun l'arrange, s'organise comme il veut. C'est juste une suggestion. Vous voyez, voilà.
faut le faire avant minuit, sinon c'est pas valable. Non, mais même il y en a qui me disaient, si un jour je loupe, c'est pas non plus un drame absolu. Si le lendemain vous pouvez faire ce que vous avez manqué la veille, c'est bien, mais voilà. Soyez assez souple. L'idée, c'est d'entrer dans un esprit. Vous voyez, on n'est pas pharisien. On va pas. C'est un outil qui vous est proposé. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un pourrait mettre ça très différemment. Je veux dire, c'est pas dogmatique mon affaire là. C'est moi qui l'ai inventé, donc c'est pas dogmatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Si quelqu'un trouvait un ordre mieux, et trouvait que ce serait plus judicieux de faire autrement, de disposer les choses, très bien, à la bonne heure. Pourvu qu'on entre dans l'esprit de la consécration. L'idée, c'est de vous aider en vous proposant ces textes qui nous brassent parfois. Mais moi, j'aime ça, les textes qui me brassent. C'est pour ça que j'aime bien l'imitation de Jésus-Christ, par exemple, parce qu'on ne ressort pas indemne, quoi. Et ça, c'est bien, parce que ça nous oblige à la conversion. Sinon, on a toujours nos petites idées, nos petites choses. Ah ben oui, mais puis en fonction de notre esprit du monde, là, et puis finalement, on n'avance pas parce qu'on va avoir notre dévotion light à notre manière, et voilà, et selon l'esprit du monde, surtout, hein, pas trop bouger. Voilà. Ben, justement, ce que ça nous travaille un peu, c'est bien. Si je vous dis pas que c'est agréable, c'est une autre affaire, mais c'est bien. Oui. Bah, pardon, j'ai pas entendu. Pas. Oui. Ah, chacun le fait à sa manière, mais ceux qui l'ont décrit le plus, je pense, sont plutôt les saints du Carmel. Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, etc. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vécu plus, mais ils ont eu les mots et la grâce particulière du Seigneur pour mieux l'exprimer. Mais on exprime avec des mots ce qui est indicible, parce que quand on rencontre l'infini de Dieu, l'éternel, ben nos mots sont toujours trop pauvres pour l'exprimer. Donc c'est très difficile en fait d'exprimer, mais le maître c'est Saint Jean de la Croix, c'est le docteur de la mystique, mais Saint Thérèse d'Avila aussi d'une autre manière. Mais Père de Montfort a eu cette expérience mystique très forte, évidemment. Mais alors lui, il dit, plus comme un pasteur, lui, son angle d'attaque, si je peux dire, c'était les missions paroissiales, aider les chrétiens, quels qu'ils soient, à grandir dans la foi, à prendre conscience des grâces de leur baptême, de la beauté, de la grâce de Dieu, et puis les aider à avancer avec ça. On fait pas la consécration parce qu'on est parfait. On l'a fait pour le devenir, c'est pas la même chose. Donc, il y en a qui disent, oh oui, mais moi je suis pas doué, je sais pas trop, je suis pas intelligent, je sais pas quoi. Ça m'agace, ces arguments. Et que chacun parte d'où il est, et puis c'est tout, et le Seigneur fera le reste. Si on a une bonne volonté, le Seigneur fera le reste. Voilà, chacun prend ce qu'il peut prendre. Oui, mais ça fait plus de 30 ans que j'ai fait la consécration. Je découvre toujours des choses, et en préparant pour vous, je suis heureux, parce que je redécouvre encore des choses. J'entre un peu plus dans cet esprit justement de la consécration. On n'a jamais fini, et c'est ça qui est génial. Vous voyez, avec nos limites, nos péchés, nos faiblesses, nos blessures, tout ce que vous voulez. Mais c'est beau, on entre justement et on a ce désir d'avancer. Et le Seigneur fera le reste. N'ayez pas peur. Oui. C'est une bonne question. Alors, en fait, vous voyez, le Père de Montfort, là, il y a cet écrit fondamental du Père de Montfort qui, à mon avis, est le plus important, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, c'est l'amour de la sagesse éternelle. Hein, vous voyez, c'est le premier écrit là, que j'ai mis, le Père de Montfort, qui est le plus volumineux. En fait, c'est une sorte de commentaire du livre de la sagesse dans l'Ancien Testament. Et donc, ce livre de la sagesse dans l'Ancien Testament, on a des beaux textes en ce moment dans la liturgie, là, pour ça, et décrit justement cette sagesse de Dieu éternel. Et nous, les chrétiens, évidemment, les pères de l'Église, toute la tradition chrétienne, on a reconnu dans cette sagesse qui existait avant la création, depuis toujours. C'est ça qu'ils nous disent les textes. On s'est dit, mais ça, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Verbe éternel qui existe de toute éternité, vous voyez, et qui à un moment est venu à nous, se propose à nous. Et donc on regarde Jésus comme cette sagesse éternelle décrite dans l'Ancien Testament. C'est pas quelque chose qu'on invente, mais en fait, elle a pris un visage. Voyez, elle a pris notre nature humaine et c'est montrer à nous. Dieu ouvre son cœur, Dieu se montre à nous. Et donc, il ne faut pas réduire la sagesse à quelque chose de purement intellectuel. Voyez, il y a un aspect intellectuel, mais il y a aussi un aspect du cœur, il y a une intelligence du cœur du Seigneur. Parce que sinon, mais en même temps, il ne faut pas négliger la dimension intellectuelle, c'est les deux. Voyez, et parce qu'on ne peut bien... on ne peut bien connaître que ce que l'on aime. C'est pas vrai? Et on ne peut bien aimer que ce que l'on connaît aussi. Et plus on connaît l'être aimé, et plus on l'aime. Et plus on aime l'être aimé, et plus on a envie de le connaître, non? Et bien, vous voyez, c'est ça. Et Jésus, c'est le Verbe éternel. Et le Verbe éternel, bon, c'est un peu trop long de vous expliquer tout ça, mais le Verbe éternel, c'est Le Père qui dit qui il est. C'est l'image parfaite du Père. Tout est donné dans son Verbe, hein, et c'est dans son Verbe qui crée toute chose. Et c'est pourquoi nous entrons, nous, dans cette vérité tout entière. En Jésus-Christ, tout est donné. En Jésus-Christ, tout est manifesté. Il est la parfaite image du Père. Et du coup, c'est pourquoi, je vous le redirai, ça c'est la quatrième conférence, c'est pourquoi, pour nous, il faut connaître Jésus-Christ. Père Montfort dit, tout connaître et ne pas, tout savoir exactement, et ne pas savoir Jésus-Christ, c'est ne rien savoir. Ne rien savoir et savoir Jésus-Christ, c'est assez savoir. Mais vous m'entendez bien, ce n'est pas qu'une connaissance intellectuelle, sinon dans ces cas-là, ce serait réservé au docteur en théologie, vous comprenez? Or, le plus grand théologien de l'Église, c'est la Sainte Vierge. Et oui, parce que c'est elle qui est la plus transparente à la grâce de Dieu. Je n'ai pas dit que c'était la plus grande intellectuelle, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est elle qui est plus transparente à la grâce de Dieu, la plus ouverte, qui fait que son intelligence est totalement ouverte à la grâce de Dieu. Elle a une intelligence extrêmement fine de ce qu'est le Seigneur, de qui il est, et qu'en plus c'est une intelligence aimante, parfaitement intelligente, parfaitement aimante. Et vous voyez, je suis frappé, c'est un petit témoignage que je vous donne, mais dans mon ministère de monnaie d'hôpital, j'accompagnais des personnes handicapées, mentales et physiques à des degrés divers, et je vivais au quotidien avec eux pratiquement. Et j'étais frappé de voir comment certains avaient une intelligence de la foi, alors qu'ils étaient un peu zinzins, hein, mais ils avaient une intelligence de la foi absolument bouleversante. Et moi, ils m'ont donné des leçons de foi. Et je suis sûr que le Seigneur s'adaptait à eux pour leur donner une vraie intelligence de la foi, à leur manière à eux. C'est ça qui est beau. Dieu s'adapte à chacun de nous. Et en fait... Certains étaient vraiment entrés à leur manière dans cette intelligence de la foi, cette vraie sagesse. Ils ne le savaient même pas eux-mêmes. C'est certes ça qui est encore plus beau, parce qu'ils étaient tellement humbles qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient humbles. Et c'est ça en fait la vraie sagesse, la vraie intelligence. Elle vient de la lumière. Une des notions fondamentales de saint Augustin, c'est l'illumination. C'est-à-dire que il explique, saint Augustin, que sans la grâce de Dieu, la lumière qui vient d'en haut, notre intelligence, elle est trop limitée, elle est trop restreinte, trop étroite. C'est la grâce de Dieu, c'est la lumière de Dieu qui nous dilate. Et plus on reçoit cette lumière de Dieu, plus on entre dans cette intelligence du Seigneur. Mais ce n'est pas qu'une question de raison raisonnante. Ça répond à votre question. Il n'invente pas, en fait, le Père de l'Enfant. Peut-être qu'il faut qu'on fasse les exercices maintenant. Bon, si vous avez d'autres questions, à la fin, je reste, vous pouvez venir sans problème. En tout cas, je vous encourage à continuer, persévérer et prendre peur.